Bonsoir, nous sommes heureux d'accueillir à nouveau David Christoffel pour cette deuxième séance du cycle L'objet de la musique. Ce soir, David va évoquer le douloureux apprentissage de la virtuosité des pianistes à partir de petits instruments de torture comme le dactylion ou le chiroplaste. Il est accompagné au piano par Nicolas Horvath qui va donc mettre à l'épreuve son doigté et ses doigts sur quelques pièces redoutables. Nous vous donnons rendez-vous pour la dernière séance de ce cycle dans 15 jours, le 16 février. Et donc cette séance sera consacrée au métronome et à la baguette. Bonne soirée à tous.
De Jean-Bernard Laugier. C'était, en guise de prélude à cette conférence, la sixième étude de Philippe Glass. Il se trouve que Nicolas Horvath vient d'enregistrer le premier livre des études de Philippe Glass qui paraîtra au mois de mars chez Naxos. Et ça ouvrait particulièrement bien cette conférence puisqu'on entend que Philippe Glass se fait virtuose au moment où il écrit des études. Donc il y a une espèce d'intimité entre cette gymnastique des doigts et la virtuosité, la gymnastique des doigts en général pour un pianiste, on en fait un emploi métaphorique, mais il se trouve qu'au moment où les facteurs de piano se mettent à perfectionner l'instrument et la technologie pianistique au début du 19e siècle, eh bien en même temps on commence à se soucier de souplesse digitale et on commence à s'équiper avec des outils pour effectivement acquérir cette souplesse. Alors pour ça, On invente des aides mécaniques auxquelles on va dédier donc cette conférence. Il s'appelle le dactylion, le chiroplaste, on a aussi l'oquidactyle, le sténochir ou l'artrilion. Et puis arrive un peu plus tard le chirogymnaste qui estampille l'idée qu'il en va d'une gymnastique. Alors, pour commencer, parlons de ce Jean-Bernard Laugier, puisque finalement, le chiroplaste qu'il invente au début du 19e siècle est le premier de ces instruments. Alors, selon les occurrences, on le trouve parfois appelé Johann Bernhard Laugier, puisqu'il était en fait issu d'une famille française réfugiée en Allemagne après la révocation d'Édit de Nantes. Il est né en 1780. Son père lui apprend le piano, il préfère la flûte, il en devient virtuose. Et puis, quand il perd ses parents, on le donne à un tuteur qui veut lui faire arrêter la musique pour le commerce. Là, il s'enfuit à Marbourg chez un oncle, et puis il fait ensuite la connaissance d'un Anglais qui l'emmène à Londres et le traite comme son fils en exigeant simplement de lui qu'il joue de la musique. Alors je vous raconte un peu sa vie parce qu'elle va déterminer le rapport qu'on aura ensuite à cet instrument qu'il invente qui est le chiroplaste. Fétis raconte qu'en 1805, Laugier va officier comme flûtiste pour le régiment du marquis d'Abercorn, dont le chef du corps de musique était un Allemand de naissance, un certain Willmann, dont Laugier va épouser la fille. Et une fois la paix revenue, le régiment de l'ordre d'Abercorn est licencié. Laugier cherche à se faire remplacer à l'orgue Laugier prend la charge d'un orgue à Westporter en Irlande. Et là, très affairé à la ville, il va vouloir se faire remplacer à l'orgue donc par sa fille de 7 ans. Et c'est là que, raconte Fétis, la faiblesse des doigts et la mauvaise disposition de la main de l'enfant étaient un obstacle à la réalisation de ses projets, à ce que sa fille puisse le remplacer. Alors, pour l'avoir mis en exergue, on devine un peu la suite. La suite, c'est une barre fixée que je vais vous montrer. Une barre fixée en contrebas du clavier sur laquelle va coulisser une tringle. Une tringle qui supporte les mains pour que les doigts puissent se glisser dans des espèces de gantelets qui ont fonction de maintenir les doigts dans une position convenable. Donc, tout en facilitant l'apprentissage de sa fille, la machine fait penser à Laugier que ça pourrait en même temps changer l'apprentissage de tout apprenti pianiste, au point qu'il part s'installer à Dublin, qui se fait la réputation du meilleur prof de piano de l'Irlande. Et là, la success story est comme officialisée par le dépôt de ce brevet en 1814, qui consacre le chiroplaste comme un système d'enseignement. Autrement dit, il n'y a pas encore vraiment d'enjeu musculaire dans l'esprit de l'inventeur, il s'agit simplement d'aider à la bonne disposition des doigts sur le clavier. Et très clairement, quand Laugier présente son invention, il explique qu'il veut pas tant renforcer la musculature des pianistes pour qu'ils aient plus de virtuosité que simplement apprendre le piano un peu plus rapidement qu'avec cette aide mécanique, le jeune pianiste peut regarder la partition sans avoir peur que ses doigts dévient des notes qu'ils doivent couvrir. Alors je lis le petit texte de Laugier. Grâce au chiroplaste, la main et le bras de l'exécutant sont dans l'impossibilité de se mouvoir à faux. Les doigts sont placés de manière à être en état de donner une force égale à chaque note et l'esprit garde la faculté de fixer exclusivement son attention à la lecture de la musique. Cela dit, les difficultés que rencontre Laugier à ce moment-là vont pas être tellement liées à l'idée que le chiroplaste pourrait dénaturer le jeu des pianistes ou bien déplacer leurs critères de jeu sur des paramètres plus musculaires ou plus gymnastiques. On ne redoute même pas qu'il puisse devenir plus virtuose. On redoute surtout que les profs de piano n'aient alors plus de travail puisque le chiroplaste viendrait remplacer une grande partie de leur enseignement. Et donc, il va être essentiellement critiqué sur le fait qu'un moyen mécanique infaillible, comme il dit, vienne permettre de résoudre un problème qu'il fallait de longues leçons pour surmonter et que, à ce titre-là, son appareil risquait de rendre les maîtres moins nécessaires. Critique à laquelle lui-même répondait avec des arguments de type technophile commun. Il disait « Mon plan diminue de beaucoup la partie la plus pénible du travail du maître. Il doit, d'un autre côté, agrandir la sphère de l'instruction en engageant un plus grand nombre d'amateurs à étudier le piano, du moment où ceux-ci pourront se convaincre que la difficulté d'acquérir de l'exécution sur cet instrument est visiblement diminuée. » Donc l'argument consiste à dire Certes, vous aurez peut-être moins de travail à faire avec chaque pianiste puisqu'ils seront aidés par cet outil, mais vous aurez plus de pianistes puisque dès lors, apprendre le piano sera moins redoutable. Et puis au-delà de la peur des professeurs de piano de perdre leur travail et de se voir comme ça remplacé par des aides mécaniques, on a aussi un certain nombre de critiques qui attaquent Laugier sur le drôle de rapport à la musique que son invention est censée induire. Il y a même des pamphlets à l'humour très spécial, par exemple une fiction attribuée à un certain docteur Graham, le récit des aventures d'un certain docteur Minime qui met l'ironie à différents niveaux. Alors le docteur Minime, c'est une fiction, on retrouve un vieux camarade d'école qui avait une haute fonction dans le château d'un lord et qui venait lui apprendre que les principaux domestiques des familles anglaises de distinction étaient des étrangers, soit français, soit suisse, soit allemand, et que cette préférence aux autochtones venait d'une sorte de supériorité morale des nationalités en question. Il faisait preuve de goût exquis, de discernement, d'intelligence profonde, de caractère généreux, de philanthropie, puis l'accumulation continue comme ça, est telle que l'ironie ne fait aucun doute, mais l'accumulation arrive à mettre en avant aussi des notions de souplesse. À la suite de quoi, dans l'histoire racontée, Jacob, donc le vieux camarade, montre à Docteur Minime les effigies des anciens rois irlandais, et Docteur Minime arrête son admiration sur celui qui tient une lance dans sa main droite, qui avait grande souplesse dans les doigts, et qui saluait l'ingéniosité de l'artiste qui donnait tant d'élasticité aux articulations de l'armure, et par suite une grande variété de mouvements. Alors en le disant comme ça, ça revient à dire qu'une variété de mouvements conquise par une élasticité des articulations aidée mécaniquement est artificielle et n'a peut-être pas de quoi tant que ça pour de vrai attirer l'admiration. Donc il y a quand même un hiatus sur les critères esthétiques vers lesquels on évoluerait à partir du moment où on jouerait du piano plus facilement mais avec des aides mécaniques. Et puis au passage, on a l'impression que Laugier est renvoyé à son passé militaire par la référence à l'armure. Et si on se moque comme ça à faire comparaître les apprentis pianistes à leur instrument tels des soldats en armure, eh bien on devine qu'il y a peut-être sous-jacent ce problème de style qui est relevé. Et le fait est que si on joue maintenant les méthodes pour piano publiées par Jean-Bernard Laugier, eh bien on entend que les exercices pour assouplir les mains, la gauche à l'égal de la droite, donnent à la musique une allure, si ce n'est tout à fait militaire, en tout cas on peut l'entendre mécanique. La leçon numéro 24 du Compagnon du chiroplaste, écrit par ce Jean-Bernard Laugier. Alors les polémiques autour de son chiroplaste ont produit une sorte d'effet stressant, c'est-à-dire de bad buzz, qui est tout de même un buzz. Ça a participé à diffuser la nouvelle. Laugier a pu s'associer avec Frédéric Kalkbrenner pour l'exploitation du système dans les cours à Londres. Et puis la méthode s'est vite exportée en France et en Allemagne, notamment grâce à un certain Stoeppel, qui explique dans la méthode de piano que lui écrit en 1835, le chiroplaste a pour but non seulement d'empêcher l'élève de lever les mains trop haut, mais encore de s'opposer à l'action du bras sur le toucher et enfin de contraindre l'élève à ne pas laisser retomber ses mains. On a donc bien l'idée que le chiroplaste est fait pour aider les jeunes pianistes à bien se tenir, mais on n'a toujours pas de notion de gymnastique. Et d'ailleurs, avant les écrits de Stoeppel lui-même, on dispose d'une description assez précise de l'ambiance pédagogique dans laquelle Stoeppel utilisait le chiroplaste dans les leçons de piano qu'il donnait à Paris, puisque l'usage du chiroplaste a mis manie les professeurs de piano des années 1820 dans une logique un peu industrielle par rapport à l'enseignement du piano. Dans la revue musicale en 1830, on lit les succès qu'a obtenu en peu de temps la méthode qui a été introduite en France par M. Stoeppel pour l'enseignement du piano l'ont obligé de diviser ses cours et de les ouvrir dans des locaux plus vastes et mieux appropriés à son mode d'enseignement. Cette méthode, qui depuis près de 20 ans est suivie par les professeurs les plus distingués de l'Angleterre et que l'on s'est empressé d'adopter dans les principales villes de l'Allemagne, a été sur le champ comprise à Paris. Et alors, l'article ensuite détaille quand même le nivellement des enjeux. D'abord, il y a l'enjeu mécanique, hâter les progrès des élèves dans la partie purement mécanique de l'art du pianiste pour l'emploi du chiroplaste, animer leurs études, dont l'aridité, l'ennui, les fatigues et les rebutent trop souvent, donner même à leurs premiers essais de la couleur et de la vie. Et puis, il y a un autre niveau, la partie scientifique, l'étude des règles de l'harmonie et de la composition, sans la connaissance desquelles l'éducation musicale demeure incomplète. Et là aussi, on vante Stoeppel d'avoir acquis une espèce de rapport suffisamment abstrait aux règles de l'harmonie pour pouvoir les apprendre d'autant plus rapidement aux élèves, dit-on même à la portée des intelligences les plus faibles. Et puis l'article se finit par une espèce de pub. Ces cours sont exclusivement consacrés aux dames. Ils ont lieu chaque semaine de 2 à 4 heures de l'après-midi, les lundis et jeudis pour une classe et les mardis et vendredis pour une autre dans l'établissement de la Chaussée d'Antin. Alors maintenant, est-ce que ces cours sont... Parce que ces cours sont réservés aux dames, on trouve en tout cas dans la méthode de Stoeppel des ambiances musicales moins militaires et par exemple un rondo qui fait bien entendre que tous les attributs techniques que l'on peut prendre pour améliorer son jeu pianistique sont résolument tournés vers un plaisir musical qui lui est censé être le moins mécanique possible. Un extrait du rondo numéro 1, opus 27 de ce François Stoeppel, dont le succès en France, grâce au chiroplaste, fait suite à l'admiration d'autres grands professeurs de piano des années 1820 à Paris, comme Frédéric Kalkbrenner, qui a été le premier professeur de piano parisien de Frédéric Chopin, ou encore de Muzio Clementi, qui publie en 1826 un ouvrage canonique de la littérature pédagogique pour piano, qui est ce Gradus ad Parnassum, ou l'art de toucher le piano. Et là, déjà, il y a une espèce de parti pris très net du pédagogue de mettre de l'expressivité dans les exercices, tout en affectant chaque mouvement à une humeur ou chaque humeur à un mouvement, comme s'il s'agissait de créer aussi un rapport un peu mécanique à l'émotion, en se disant si on met tel paramètre musical, alors on doit obtenir telle émotion. Et dans un essai qui s'intitule La muse mécanique, le musicologue Derek Carew a enquêté sur les formes musicales de 1760 à 1850 en essayant de voir justement comment le développement du piano est contemporain et probablement pour quelque chose au développement de parties d'accompagnement plus mécaniques. Et si on peut toujours dire que d'un point de vue physiologique, il est plus facile de donner à faire à la main gauche des mouvements plus machiniques, eh bien, il ne devrait pas y avoir de raison de rester dans un schéma où les parties de dessous suivent des parcours plus schématiques. Et c'est vrai que les gestes des mains sur le clavier ont l'air de devenir une espèce de modèle même pour l'écriture symphonique pour les compositeurs, sauf que ce ne serait pas du jeu si c'était pour démontrer ça, que pour preuve on prendrait une version pour orchestre d'une pièce pour, en fait écrite pour piano. N'empêche, plus on muscle la main gauche, plus on va avoir tendance à vouloir lui donner une consistance musicale digne de sa force musculaire, et c'est comme ça que les techniques d'apprentissage du piano vont finir par avoir des incidences sur le style de musique que l'on va composer pour le piano. Et sur ce rapport entre mouvement et humeur, c'est quelque chose qui va être tenace dans les méthodes pour piano, puisque si on prend par exemple la fameuse méthode rose qui paraît dans les années 1920, cette fois un siècle plus tard, on a en alternance des exercices et des études, des récréations avec par exemple une berceuse à jouer très doux, suivie d'un contentement à jouer bien posé, puis les petits soldats à jouer fièrement, ou bien une pièce qui s'appelle Petit Papa qu'il faut jouer tendrement. Et tout cela est peut-être donc une vision basique de l'émotion, c'est tout de même mieux que rien, dans la mesure où ce type d'indication comme ça de caractère, à teneur basique mais émotionnelle quand même, n'arrive dans la méthode rose que dans ses récréations, là où les exercices et les études en sont dépourvus. C'est-à-dire que la bienséance des pianistes n'approche la tendresse, la gaieté ou la joie qu'à titre récréatif, là où un siècle plus tôt, dans les années 1820-1830, on avait une espèce de consécration de l'expressivité des exercices et on mettait un certain soin à, dans les méthodes pour piano, composer des morceaux avec une espèce de petit programme poétique. C'est comme ça que dans ce Gradus ad Parnassum, on trouve un adagio patético. Et alors que en 1826, donc quand paraît cet ouvrage pédagogique d'une telle importance qu'il est joué par les pianistes comme une œuvre, dans le même temps que les exercices vont se sentimentaliser, les outils vont se multiplier pour, on pourrait dire, athlétiser le jeu pianistique. Entre Laugier et Stöppel, il y a en France donc Frédéric Kalbrenner, pianiste d'origine allemande, qui, au moment de s'installer en France, cette même année, en 1826, travaille avec le facteur d'instrument Camille Pleyel dans la société de piano. Il fait breveter en 1831 un guinemain qui, par rapport au chiroplaste, supprime les gantelets. Ce qu'il garde, pour le coup, au chiroplaste, c'est le principe d'une tringle. Stöppel fait la description de ce guinemain de Kalbrenner, qui consiste en une barre adaptée à l'instrument, de manière que le pianiste puisse reposer l'avant-bras dessus. Il a pour but de s'opposer à l'action du bras sur le toucher, d'empêcher qu'on ne laisse tomber les mains trop bas, et enfin de faciliter le travail des exercices aux personnes qui ont la poitrine délicate. Alors s'il faut des équipements pour s'assurer une bonne tenue devant l'instrument, ça veut dire aussi qu'il en va d'une bonne tenue de ses humeurs. Et cette histoire de bonne tenue des humeurs est quand même antérieure à l'âge romantique. Par exemple, en 1784, donc un an avant la naissance de Kalkbrenner, l'abbé Percheron écrit « L'éloge de la gaieté », qui est une sorte de méthode couée avant l'heure, dans laquelle on peut lire « La gaieté, en prenant possession de leur âme, amènera à sa suite l'égalité d'humeur, l'esprit de paix et de concorde, la bonté, l'affabilité, la franchise et la droiture, un cœur sensible et compatissant. Elle polira leur esprit, elle l'adoucira, elle rendra agréable et amusant, elle embellira leur imagination et en développera toutes les facultés. » Et l'idée comme ça d'une gaieté qui se calcule et se décrète est accueillie avec une relative circonspection au moment où l'abbé Percheron écrit, dans les années 1780, et dans le Mercure de France, on trouve une certaine réserve. Voilà, dans l'éloge de la gaieté, monsieur l'abbé Percheron décrit bien moins les effets que la gaieté produit sur le cœur et sur l'esprit que ce qu'il serait à souhaiter qu'elle y produisit. Et c'est aussi cette idée qu'on retrouvera, pour le coup, dans les années 1830, à l'occasion d'un prix proposé pour améliorer la diffusion de la musique en France. Un certain Joseph François Porte écrit « Si les sensations que nous éprouvons sont bien souvent pénibles, il est vrai de dire qu'il en est qui embellissent l'existence et semblent même l'agrandir. C'est pourquoi l'homme recherche avec avidité ce qui est capable de l'émouvoir fortement. » Autrement dit, on irait chercher dans la musique des émotions que l'on maîtrise et on pourrait comme ça se programmer émotionnellement par les morceaux que l'on jouerait au piano. Il s'agit de se mettre en bonne affinité donc avec ses moyens pour distribuer ses émotions en bonne grâce. Et il doit y avoir donc dans la bienséance pianistique toutes les ressources d'une esthétique qui implique ouvertement donc la bonne tenue de son âme ou de l'âme du musicien. Ce qui implique aussi de thématiser l'enseignement de la musique et par lui la mélomanie, un peu comme une éducation sentimentale. Stendhal, pour le coup, quand il écrit De l'amour en 1822, parle de musique et de mélomanie avec cette idée qu'on pourrait arriver à se manipuler soi-même en se programmant émotionnellement. Et c'est comme ça que, après l'adagio pathetico dans le Gradus ad Parnassum, on peut trouver dans les 25 grandes études de style et de perfectionnement de Frédéric Kalkbrenner un allegro furioso fait donc pour programmer votre fureur. Alors, il se trouve que peu de temps après son arrivée à Paris en 1831, Frédéric Chopin reçoit de ce Frédéric Kalkbrenner la proposition de suivre ses leçons pour 3 ans. Le père de Chopin, Nicolas Chopin, lui écrit que c'est trop. Son prof de Varsovie, Joseph Elsner, cherche aussi à l'en dissuader en l'encourageant à ne pas focaliser toute son attention sur le piano. Il lui écrit « Même la manière la plus parfaite de jouer d'un instrument, par exemple celle d'un Paganini pour le violon ou de Kalkbrenner pour le piano, avec tout ce qu'elle comporte d'enchantement, soit par le caractère spécifique de l'instrument, soit par l'originalité de la composition adaptée aux propriétés de celui-ci, tout ce qui constitue le jeu compris de la sorte n'est pourtant, dans le domaine de la musique, qu'un moyen pour arriver à l'expression des sentiments. Et Chopin va vraiment garder cette idée que la technique n'est qu'un moyen et que ce qui compte, c'est l'expression des sentiments, même si le reste de sa correspondance montre qu'il a un certain trouble dans ses finalités, que le mécanisme des doigts comme moyen de porter l'émotion et le bon port des émotions comme moyen d'accéder au génie poétique vont devenir quand même des marqueurs pour lui. Et puis, on a témoignage d'Antoine Marmontel un peu plus tard dans le siècle qui consacre dans ses silhouettes et médaillons un chapitre à Georges Mathias. Georges Mathias, c'est une espèce de point aveugle de cette conférence puisque c'est à la fois un élève de Kalkbrenner puis de Chopin et puis ça va être le professeur d'Éric Satie avec qui on va finir la conférence. Et alors Marmontel oppose Chopin et Kalkbrenner comme des antithèses marquées, deux écoles absolument différentes, la première faisant reposer la perfection dans une précision et une régalité automatique, l'autre admettant les procédés de mécanisme comme moyen, non comme but. Et donc le tempo rubato de Chopin, ses sonorités nuageuses, ses compositions ravissantes, mettaient le pur classique hors des gonds. Donc on aura deux modèles, deux rapports à la mécanique à travers Kalkbrenner et Chopin. Et dans cet esprit, pour encourager Chopin à effectivement viser beaucoup plus le chant que la technique, on a une phrase emblématique d'Émile Gaillard, qui était banquier et cependant ami et élève de Chopin et qui écrivait dans le journal des débats « Quand un beau chant sorti du cœur sonnait sous sa main gauche, on eût dit que la droite déroulait négligemment toute la magnificence d'une dentelle sonore ». En 1840, Fétis et Ignace Moscheles entreprennent de faire une méthode des méthodes de piano. Et pour ça, ils demandent des études à différents compositeurs, dont Chopin. Mais alors, avant d'écouter Chopin, c'est l'occasion de découvrir des compositeurs. Et on a découvert quelqu'un qui avait la réputation d'être le compositeur peut-être le plus difficile à jouer de l'histoire de la musique, qui s'appelait Jean-Amédée Lefroy de Méreau, dont voici donc un extrait de l'élection. Les chiens. Jean-Amédée Lefroy de Méreau, l'étude opus 63 numéro 41 et qui, toute étude qu'elle est, s'intitule Elegia, ce qui voudrait dire donc qu'avec tous ces exercices, on pourrait même se faire une éducation sentimentale en s'exerçant la souplesse dans les doigts. On s'apprend à bien manier ses émotions. Et dans cette hypothèse donc, où le perfectionnement technique au piano est plus ou moins métaphoriquement lié à un perfectionnement moral, et bien, quand on commence à parler de l'âme révolutionnaire des romantiques comme Chopin ou Liszt, cela voudrait dire qu'il faut comprendre révolutionnaire pas seulement au sens politique, mais aussi au sens technique. Et c'est ce que fait le musicologue allemand Dieter Hildebrandt, qui écrit « Le vrai triomphe dans les salons, la conquête des princes, des diplomates et des cardinaux, la soumission de l'aristocratie, de la finance et de la politique, Chopin les doigts, à des études, il leur fait avaler des pièces didactiques, il fait éclater le cadre jusqu'alors assigné au genre, le cadre technique, le cadre musical, mais aussi le cadre mondain. C'est donc là aussi que Chopin se montre révolutionnaire, à savoir dans un sens peut-être para-romantique, c'est-à-dire dans ses études. Nicolas Horvat va donc interpréter un extrait de la 10e étude de l'opus 25. Il y a cette méthode des méthodes dans laquelle on peut retrouver un certain nombre de conseils des grands maîtres du clavier, y compris les conseils de François Couperin, qui ont pourtant plus d'un siècle, puisqu'ils datent de 1717. Et par exemple, on trouve des conseils pour avoir la bonne hauteur des coudes et des poignets, pour avoir un toucher coulant. Et puis, on trouve aussi la bonne position qu'il faut avoir par rapport à son instrument, tourner un tant soit peu le corps sur la droite comme pour adresser son jeu aux auditeurs et faire entendre la musique comme une conversation respectueuse des bonnes règles de sociabilité. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait incliner le piano vers vous pour que le jeu vous soit adressé et que donc les codes de bonne sociabilité devraient intégrer les codes de mise à disposition des instruments de musique sur scène. Et cet art de toucher le clavecin de Couperin va faire référence dans l'histoire de méthode de clavecin, mais aussi de piano. Pour être assis d'une bonne hauteur, écrit Couperin, il faut que les dessous des coudes, des poignets et des doigts soient de niveau. Ainsi, on doit prendre une chaise qui s'accorde à cette règle. Ce qui est le point de départ d'une sorte de querelle entre les méthodes au XIXe siècle, puisque Chopin, lui, prescrit que le coude soit au niveau des touches blanches, alors que son élève, Tellefsen, pense que le siège doit être assez haut pour que les coudes soient un peu plus élevés que les touches blanches et que le bras ait une légère inclinaison vers le clavier. Et à ce titre est rejoint par Clementi. Il reste qu'on surnomme parfois Chopin le Couperin du XIXe siècle, à l'exception de cette erreur technique-là, mais il reste qu'à travers ce débat sur la bonne position du coude par rapport au clavier, eh bien, d'une certaine façon, on exclut le guide-main qui faisait du jeu une seule affaire de main sans engager l'avant-bras ou le coude. Arrive alors le dactylion. Qui est défini comme un instrument à ressort inventé par M. Henri Hertz qui sert à donner plus d'extension à la main, à délier et à fortifier les doigts, on commence à avoir une notion de musculature, à les rendre indépendants les uns des autres, à donner enfin au jeu cette égalité sans laquelle il n'y a pas de belle exécution sur le piano. L'expérience démontre merveilleusement, nous dit un dictionnaire de musique un peu plus tard dans le siècle, qu'une heure de leçon par jour avec le dactylion suffit pour améliorer rapidement les progrès des élèves et contribuer d'une manière sensible à la facilité du jeu chez les artistes eux-mêmes. Alors Henri Hertz, c'est un pianiste virtuose, un facteur de piano, un compositeur très prolifique, qui a été aussi le professeur de piano de Marie Jaël, qui a consacré des ouvrages au toucher du piano à la fin du XIXe siècle. Et il avait donc poussé le zèle pédagogique jusqu'à inventer ce dactylion, instrument qui permet donc de suspendre les doigts du pianiste au-dessus du clavier. Et alors si on a une étiquette imprimée sur le dactylion qui signe bien comme ça Henri Hertz, on a aussi dans l'inventaire du musée de la musique une description plus précise. 10 anneaux en métal recouverts de cuir, tenus par 10 tiges métalliques à 10 ressorts en métal avec support de bois, deux réglés en métal dans les deux parties inférieures. Cela dit, il y a un petit problème, c'est que, en fait, il était né en 1803, ce Henri Hertz, et il n'avait pas 25 ans au milieu des années 1820, et il y a en fait quelques doutes sur le fait que ce soit bien lui qui ait inventé le dit dactylion. En fait, il y a un professeur de piano qui s'appelait Monsieur Meyer d'Alembert qui, au milieu des années 1820, a commencé à parler à ses amis d'un appareil pour faciliter l'étude du piano. Et comme des artistes distingués avaient fait remarquer à Monsieur Meyer d'Alembert que le piano est un instrument sec par nature, si bien que le talent de l'artiste doit consister à cacher ce défaut, à lier le plus possible les sons les uns aux autres et ne surtout pas servir d'une machine dont le but est tout à fait contraire, puisqu'elle force les doigts à se relever dès qu'ils ont frappé la touche. On a en 1827 un périodique qui paraît, qui documente beaucoup les débats musicaux de l'époque, la revue et gazette musicale, et qui révèle effectivement que ces mêmes artistes distingués ont conseillé à Monsieur Meyer d'Alembert de soumettre son invention à Henri Hertz, qui était connu pour avoir le jeu détaché et des mouvements des mains et des bras justement un peu empoulés. Et le dit Henri Hertz a effectivement été enthousiaste de découvrir le dactylion, au point de s'en approprier l'invention. Et quand Meyer a commencé à lui reprocher la trahison, Henri Hertz lui a répondu « Monsieur, je ne me rappelle pas que vous m'ayez parlé du dactylion, mais en tout cas, c'est une vieille invention que mon père a déjà vue autrefois en Allemagne et qui n'est pas plus de vous que de moi. » D'une certaine façon, même s'il mettait bien son nom dessus, Henri Hertz penser le dactylion en continuité parfaite donc du chiroplaste. Il reste que le débat qui s'agite autour du dactylion, justement, ressemble un peu au débat qui s'est agité autour de Laugier et de son chiroplaste, puisqu'il a aussi fait l'objet de quelques moqueries. Alors avant de détailler ces moqueries, je voudrais pointer que peut-être on a là un début tout de même de tournant gymnastique, puisque sur le plan musical, le dactylion installe un idéal de maîtrise de ses mains, au point que pour assurer à cette invention toute l'utilité dont elle est susceptible, peut-on lire, Monsieur Henri Hertz a écrit et publié un recueil de 1000 exercices contenant toutes les combinaisons qu'il est possible d'exécuter à l'aide du dactylion. Ce qui implique l'idée, donc, assurer à cette invention, toute l'utilité dont elle est subtile, qu'il y a un dédoublement de la fonction de l'objet. Il y a dès lors d'une part l'usage pour lequel il a été conçu, mais ensuite un usage idéal, maximalisé, auquel il est censé inviter. Alors voici un des exercices de ce Henri Hertz. Alors Henri Hertz est, comme je vous disais, l'objet de moqueries, de critiques, au point qu'un caricaturiste de l'époque, Dantan, avait en 1833 imaginé que le dactylion était, en termes d'utilité, surtout bon à attraper les souris qui passent et repassent à travers les différents anneaux de la machine. Après quoi, il y avait eu tellement de débats autour de ce dactylion que la Gazette des Salons, en 1837, a essayé d'arbitrer les choses et d'essayer de dégager des critères en nuançant notre expérience, on peut lire, et c'est là le grand juge, notre expérience nous a prouvé que le dactylion ne donne pas plus d'égalité au doigt qu'un piano dur quelconque, que son emploi ne doit jamais être de plus de 5 minutes de durée pour des passages vides parce que sans cela il raidit la main, que pour les personnes qui ont un jeu énergique, son emploi réitéré rend le toucher dur et désagréable, que pour ceux qui ont la main faible, le dactylion est une excellente chose qui fortifie réellement les doigts. Donc on a quand même une logique de musculation qu'on n'avait pas à l'époque du chiroplaste. Autre ambiance, le sténokyr, qui est inventé par M. Guérin, breveté le 6 mai 1844, instrument destiné aussi à exercer les doigts des élèves qui veulent apprendre le piano. Alors cette fois, on a l'avant-bras qui glisse sur une règle en bois, les doigts qui passent dans des anneaux en caoutchouc suspendus au moyen de petits ressorts qui donnent à tous les doigts une résistance égale à 20, puisqu'il y a cette idée qu'il faut que tous les doigts soient effectivement égalitaires en musculature. Idée qui, d'une certaine façon, j'y reviendrai tout à l'heure, vient de Couperin. On a aussi, en 1840, le bracelet de Magnier. Et puis dans cette idée, finalement, de plus en plus orthopédique, on peut dire, il y a l'agilimain de Monestier, le guillemin à rayon d'Hamilton, le vélosmano de Fèvre, l'artrillion de Vauclin, le polodic tactile de Saint-Pern. Alors c'est très difficile à trouver. Je voudrais, avant d'en venir vraiment aux questions de gymnastique, revenir un moment en 1840 et donc à la méthode Les Méthodes pour écouter un extrait de La Chasse d'un autre compositeur qu'on a découvert en préparant cette soirée, Stéphane Heller. Méthode des méthodes, donc 1840, l'année où Casimir Martin invente le chirogymnaste. Il s'agit d'un assemblage pour le coup de 9 mini-appareils destinés à la gymnastique des doigts. Le mot gymnastique est lâché, puisque le chirogymnaste avait effectivement une prétendue vocation à accroître l'écartement des doigts, l'indépendance des doigts, en renforçant celle de l'annulaire, l'assouplissement des doigts, en augmentant aussi la flexibilité et la force d'attaque des doigts. L'inventeur préconisait qu'on l'utilise 5 minutes matin et soir. Et puis dans cet esprit vraiment orthopédique, on a cet instrument qui est l'occidactyle qu'on trouve dans une vitrine du musée instrumental de Bruxelles que l'on doit à Félix-Charles Levaché d'Urcle qui là pour le coup a vraiment vocation à modifier la main. C'est la présence des expansions aponévrotiques des muscles extenseurs des 3e, 4e et 5e doigts qui paralysent le mouvement d'ascension du 4e doigt et ce qui permet de renforcer la résistance que l'artiste trouve dans sa main à exécuter les difficultés de la musique instrumentale. C'est-à-dire qu'on est, à partir de ce moment-là, dans un fétichisme de la main hors du commun. On a par exemple des moulures des plus grands pianistes comme Liszt. Et donc, voici, c'est une création mondiale, c'est la première fois qu'on le donne. La 13e grande étude de Franz Liszt, il se trouve en fait que Liszt avait le projet de faire 2 fois 12 études. Il avait fait des petites études et au moment de faire les grandes études, il s'arrêtait au bout de 12, il en a publié 12 et puis il en avait fait une 13e en engageant le deuxième cycle qu'il n'a pas poursuivi au point que cette partition n'a été publiée que tardivement, c'est-à-dire il y a 2 ans et que c'est ce soir la première fois qu'elle est donnée en public. Thank you. À force d'exercice, d'exalter des mains hors du commun, on crée une espèce de pression sur les jeunes pianistes pour effectivement qu'ils se musclent les mains. Et cette pression peut mal tourner. Dans le roman du piano, Dieter Hildebrandt a repris la correspondance de Robert Schumann pour tenter une reconstitution effectivement d'un accident manuel arrivé à Robert Schumann suite à des expériences liées à ce type d'instrument. Le 8 mai 1832, Schumann écrit « Le troisième doigt marche assez bien grâce au cigare mécanique. » Il utilisait donc un instrument qu'il avait sans doute lui-même confectionné avec un ami pour entraver le mouvement de l'index de la main droite avec l'idée que ça pourrait contraindre son médium à gagner en indépendance. Alors au départ, tout va bien. Il écrit le 13 mai « Le toucher est bon, le troisième un peu plus fort. » Mais 10 jours plus tard, le troisième semble vraiment incorrigible, écrit-il. Et entre le 14 et le 22 juin, le troisième est complètement raide. Et c'est là que sa carrière de pianiste s'interrompt. Il écrit à sa mère le 9 août « Je commençais à me faire du souci pour ma main et je repoussais consciencieusement une visite à un anatomiste car je craignais fort le couperet. » Et il a fini par encaisser le couperet en écrivant un an plus tard, toujours à sa mère, « Ne te fais pas de souci pour mon doigt, je n'ai pas besoin de lui pour composer et une carrière de virtuose itinérant ne me rendrait pas plus heureux, mon tempérament ne s'y prête en aucune façon. » Donc avec cette paralysie de la main, il n'a pas pu continuer le piano à un niveau virtuose et a dû se tourner donc vers une carrière de compositeur. Ce qui pose au passage une question de responsabilité, puisque le sens commun aurait tendance à dire que malgré la pression sociale qui met le musicien comme ça dans le devoir de virtuosité, quelqu'un qui est victime de son excès est tenu responsable de sa perte de contrôle. Dans le même ordre d'idée, quand quelqu'un s'empoisonne parce qu'il ingurgite une gorgée de shampoing, aujourd'hui, il y a débat pour savoir si la confusion est imputable à la victime de l'intoxication ou si le fabricant de shampoing, qui se laisse trop aller à faire ressembler son produit à un pot de miel, n'a pas une responsabilité au nom de la loi de Murphy qui dit que s'il y a une possibilité d'une erreur, alors il y a une erreur, en conséquence de quoi, s'il y a confusion entre un shampoing et du miel, c'est qu'il y a eu possibilité de confusion. Il y a donc responsabilité de ceux qui n'ont pas colmaté avant que la confusion ne produise telle ou telle intoxication. Et avec ce raisonnement, on pourrait dire de la même façon que ce n'est pas Schumann qui est coupable de s'être fait mal à la main, mais toute cette pression à force de chiroplaste, de dactylion, a sur chaque jeune pianiste devoir se muscler les doigts pour pouvoir espérer une carrière de pianiste. Cela dit, sur le diagnostic de l'accident arrivé à Schumann, c'est pas tout à fait fixé. On parle parfois d'une liaison qui lui aurait fait contracter la syphilis. Son infirmité serait alors liée aux effets secondaires du traitement à base de mercure par lequel on cherchait à l'époque à soigner la syphilis. Et puis, il y a quelques mois, on a aussi une doctorante en psychologie clinique de l'Université de Toulouse, Anne-Sophie Ducombes, qui a publié dans Clinique méditerranéenne une étude qui fait pour le coup une lecture lacanienne du cas Schumann en posant l'hypothèse que la paralysie de la main de Schumann est une suppléance, c'est-à-dire un traitement du réel par le réel, une sorte de solution pour, en langage lacanien, suppléer à la forclusion du nom du père et donc faire de la création musicale un symptôme qui tiendra le temps qu'il tient et qui ne l'aura pas empêché de, comme on dit en psychanalyse, décompenser sa psychose quelques années plus tard. Il reste qu'avant de se paralyser le majeur, Schumann était clairement porté vers la virtuosité, avait en tout cas suffisamment intériorisé cet élan-là, pour preuve la toccata opus 7 qu'il compose quelques années avant cet accident de 1832 en 1829-1830.
Thank you.
Alors, ça ne se voit pas forcément, mais sur l'image, Georges Siffra est là en train de jouer la toccata opus 7 de Schumann. Après ses années de prison en Hongrie pour dissidence au régime, il présentait la musique et la virtuosité comme deux choses antagonistes, en éprouvant à son tour effectivement le poids de sa relation à l'instrument dans les critères qu'il peut donner à la qualité de la musique. Il disait si l'aisance de ma maîtrise instrumentale atteignait celle de mes confrères réunis, cet avantage appréciable en multipliait les inconvénients, pendant que certains d'entre eux distillaient goutte à goutte un certain ennui provenant d'un manque d'aplomb et d'imagination descriptive, moi, par excès contraire, encore étayé par ma technique instrumentale irrationnellement débridée, je le déversais par seau entier. Effectivement, comme si en resituant comme ça la virtuosité au cours d'une espèce de drame humain, on peut lui trouver quelque chose de poignant, ce qui d'ailleurs est inclus dans le concept virtuose. On peut toujours imaginer, pour reprendre la formule de Bukowski, jouer du piano ivre comme d'un instrument à percussion jusqu'à ce que les doigts saignent un peu, et on retombe sur cette ambivalence. Pour en parler, Denis Laborde, parlant de Siffra, reprend l'idée de Saint-Augustin, selon laquelle le don de virtuosité se trouve en même temps valorisé par sa dimension mythique et dévalorisé pour le jeu de monstration qu'il implique, si bien que la douleur du virtuose devrait être sacrificielle pour accéder à un statut mythique. Et puis au-delà de la lignée Schumann-Schifra, on peut parler d'un culte de la douleur qui lui va dépasser le moment romantique. En 1945, on a le cas de Georges Anteil qui publie son autobiographie « Bad Boy of Music » et il écrit « Les doigts d'un pianiste sont à la fois ses munitions et sa mitrailleuse. Avant qu'il soit prêt à être un pianiste de concert, ils doivent avoir été trempés dans l'acier. Pratiquement tout pianiste de concert doté d'une véritable technique peut casser une assiette en verre avec son petit doigt. Vous vous exercez sur des trilles lents jusqu'à ce que cela vous tue quasiment, jusqu'à ce que vos deux avant-bras soient comme des jambons vibrants de douleur, deux fois, trois fois plus gros que leur taille normale, au moins pour vous. Puis vous attendez que l'endolorissement disparaisse et vous recommencez. Enfin, après des semaines, vous commencez à jouer toute une octave, vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, jusqu'à ce que, à la fin, vos avant-bras semblent sur le point d'exploser à nouveau. À ce moment-là, la douleur atteint vos épaules, se diffuse dans votre dos, vous continuez, vous ne devez jamais vous arrêter, et ainsi, la technique entre en vous. Alors, bien avant 1945, dès la première méthode officielle du Conservatoire de Paris, en 1803, Jean-Louis Adam prépare effectivement ces exercices de trille qui sont censés donner aux doigts toute leur souplesse. Et donc, Nicolas Horvath va nous interpréter cet exercice numéro 71. Fait ce type d'exercice, c'est bien parce que l'on vise une indépendance des doigts. Cet exercice, il est extrait d'une méthode de 1803, c'est-à-dire avant l'invention du premier instrument de torture, avant l'invention du chiroplace. Et déjà en 1717, je vous en parlais tout à l'heure, dans l'art de toucher le clavecin de Couperin, on trouve l'idée d'une coulure, voilà, qui fait un rapport direct entre les questions de doigté et les questions de prosodie. C'est le musicologue Peter Sandy qui parle d'une véritable rhétorique digitale qui, puisque la musique est aussi une façon de se dire, mais également en jeu l'unité de soi en tant que sujet énonciateur. Et Couperin est si précis, c'est ça qui va peut-être inventer la notion d'indépendance des doigts, il est si précis qu'il numérote les doigts, le pouce et le numéro 1, l'index 2, le majeur 3, l'annulaire 4, l'auriculaire 5, et ces numéros vont se retrouver sur les méthodes de piano au-dessus des notes pour indiquer au pianiste avec quel doigt il doit faire quelle note. Seulement, cette numérotation semble justement supposer une incidence sur l'approche prosodique de Couperin, parce qu'elle implique une sorte d'égalisation des doigts par les chiffres, comme si les doigts des clavecinistes étaient tous les 10 également souples et robustes, et comme si c'était égal de faire 1-2-1-2-1-2 et 4-5-4-5-4-5. D'un point de vue numérique, effectivement, ça l'est à peu près. Couperin écrit « Il serait très utile de pouvoir exercer les jeunes personnes à faire des tremblements, donc des trilles, de tous les doigts. » Puisque c'est bien, donc, à en croire l'art de toucher le clavecin, en exerçant tous les doigts que le claveciniste gagnera en fluidité, accédera à la façon moderne de couler, écrivait Couperin. Et puis, en écrivant un prélude à l'imitation de M. Froberger, Couperin cherche aussi à affranchir la musique des contraintes que la langue française peut faire peser sur la prosodie musicale écrite par les compositeurs français. Il écrit toujours dans cet art de toucher le clavecin: « Il y a, selon moi, dans notre façon d'écrire la musique, des défauts qui se rapportent à la manière d'écrire notre langue. C'est que nous écrivons différemment de ce que nous exécutons. Alors pour réapprendre à parler, il faut réapprendre à doigter. Et pour apprendre à doigter, on trouve cet exercice numéro 61, toujours dans la méthode d'Adam, qui consiste à enchaîner les notes avec des doigts différents. » Alors, voici de quoi s'écarter les mains, c'est-à-dire que ensuite, ça s'appelle l'épigonia, on invente des outils pour presque se rééduquer la main de manière plus radicale, pour donner à l'annulaire l'indépendance qui lui était nécessaire. Deux docteurs américains, Forbes, qui était professeur d'anatomie, et Zicker, qui était directeur de l'Académie de musique de Philadelphie, ont été jusqu'à avoir recours à la chirurgie pour sectionner les deux tendons qui entravent le muscle du quatrième doigt, ce qui effectivement créait des débats. Mais par exemple, on a Pagnère, qui était le biographe de Gounod, qui accueillait l'idée avec une sorte d'intérêt. Il écrivait: « Le bistouri donne toute liberté aux rebelles. L'opération, paraît-il, est fort simple et elle n'est pas douloureuse. Du moins, les chirurgiens l'affirment. La main n'est pas défigurée. Les légères cicatrices se referment vite sans laisser aucune trace. » Alors, avant de conclure cette conférence, on voulait, dans toute cette littérature pédagogique pour piano du 19e siècle, vous proposer d'écouter des petites pièces des heures du matin, qui est un ensemble d'exercices écrits par Karl Czerny, et qui sont comme des micro-opéras faits pour s'occuper les doigts. Alors, quand on folklorise un peu ce genre d'objet qu'on a pu voir, le chiroplas, puis le dactylion, jusqu'à l'épigonia à l'instant, c'est souvent pour laisser supposer qu'on a retrouvé la raison du haut de notre 21e siècle, qu'on a maintenant recours à une multitude de méthodes, d'exercices qui ne laissent pas de séquelles physiques. On a même recours à des appareils qui sont destinés aux sportifs, comme des haltères de poignet, des grip masters, des hand masters, qui permettent donc de travailler les mains, les doigts sans trop de séquelles. Et c'est comme ça qu'on a de très grands virtuoses au 20e siècle, très très virtuoses, qui pour autant n'ont pas utilisé ces dactylions, ces intersténos, même si Entre-temps, on a effectivement inventé les concours de dactylographie dès la fin du 19e siècle, ou les concours de vitesse de frappe aux machines à écrire. Et pour terminer, je me suis demandé si finalement, il n'y avait pas, en termes de réponse à toutes ces souffrances, l'envie de se venger parfois sur l'instrument. Et c'est ce qui est arrivé le 2 janvier 1962. L'artiste fluxiste Georges Mathiounas, qui a composé 12 compositions pour piano pour Nanjum Peck, et l'une de ces compositions, la 13e, un peu comme l'étude de Liszt tout à l'heure, est une suite d'indications, une partition intégralement verbale, qui consistait à dire d'abord laisser les déménageurs de piano transporter le piano sur scène, ensuite accorder le piano, peigner des motifs sur le piano en peinture orange, avec une longue baguette de la longueur du clavier, jouer toutes les notes à la fois, placer un chien ou un chat ou les deux à l'intérieur du piano et jouer Chopin, tendez les cordes des notes les plus hautes en tournant la clé d'accordement jusqu'à ce qu'elle casse, placer deux pianos l'un sur l'autre, l'un d'eux peut être plus petit, retournez un piano et mettez un vase à fleurs sur la caisse de résonance, dessinez un piano de façon que le public puisse voir l'image, écrivez composition numéro 10 et montrez l'écriteau au public, lavez le piano, cirez et astiquez le bien, laissez les déménageurs de piano transporter le piano hors de la scène, et la 13e des compositions consistait donc à clouer les touches du piano. Alors on peut effectivement s'étonner que la charge subversive soit en même temps ludique, en même temps qu'on continue à accuser d'un problème de souffrance des apprentis pianistes. Par exemple, en 1995, dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales que dirigeait Pierre Bourdieu, on avait un article qui s'intitulait « Orphée blessé » dans lequel on retrouvait la citation de Georges Anteil que je vous donnais tout à l'heure, et dans laquelle on retrouvait les résultats d'une enquête menée par les auteurs de l'étude, Robert Alford et Andras Chanteau, qui avaient été voir auprès des professeurs de musique de l'État de New York comment est-ce qu'ils faisaient pour tenir le coup. Et le bon indicateur de la faiblesse du traitement médical était le recours élevé aux médecines parallèles. 44% des professeurs de musique de l'État de New York avaient un médecin, 39% un autre professeur de piano, 32% un médicament, 21% une thérapie physique, 18% des piqûres de cortisone, 17% un chiropracteur, 15% des sacs de glace, 13% des ultrasons, 12% des massages, 12% plus d'exercices, 9% la clinique des sports, 7% la chirurgie, 4% l'acupuncture, et quoi qu'il en soit, 47% déclarent recourir à d'autres médecines en plus. Alors la destruction du piano, effectivement, a prêté à d'autres types de sketchs, est devenue ludique, est devenue une des activités artistiques du XXe siècle, mais est presque à un moment donné devenue un sport. Et le comble, effectivement, est de résoudre le problème d'une sportivisation de l'art pianistique en sportivisation de l'art de la destruction de piano. C'est pourquoi, en guise de réplique finale à toutes ces questions sportives, nous avons choisi avec Nicolas Horvath de vous proposer deux très courts extraits d'une œuvre d'Eric Satie de 1914 qui s'appelle Sport et divertissement, et qui traite avec une autre ironie du devenir sportif de la musique. Et là aussi, c'est une création mondiale, d'ailleurs, comme pas mal des œuvres pédagogiques des méthodes de piano qui ont probablement jamais été données en concert comme ce soir. Il s'agit de tennis puis de golf, deux pages qui sont des créations mondiales parce que Nicolas a retrouvé les premières versions de ces partitions qui, pour le coup, n'ont jamais été jouées.